Et là, donc je suis pour ce soir, je suis ambassadeur régional de l'apprentissage. Donc c'est une mission que m'a confiée le ministre du Travail en 2014. Et dont la fonction principale consiste à faire la promotion de l'apprentissage dans différentes manifestations, dont celle de ce soir. Donc, je vais essayer de vous décrire un peu, dans le plan que je vous propose, la situation actuelle de l'apprentissage en France, un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Je vais rentrer un peu, parfois, dans un petit peu de détails. En particulier, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'apprentissage, comment ça marche, comment les jeunes sont accueillis, comment ils sont traités par les entreprises et par les établissements pédagogiques qu'ils reçoivent, CFA, lycées professionnels, etc. Bon, je vais rentrer un peu dans le détail. Il faut bien savoir que l'apprentissage, le thème de ce soir est un thème extrêmement vaste et que j'ai pris le parti de vous montrer... De vous exposer l'essentiel de ce sujet. Je continuerai après l'état des lieux à vous montrer un peu ce qui marche pas très bien, les faiblesses de l'apprentissage en France, et ensuite dans un troisième temps je vous parlerai des préconisations et des mesures qui sont en train d'être prises, puisque le projet de loi ne sortira qu'à la mi-avril par le gouvernement actuel, pour booster l'apprentissage, pour lui redonner un peu de vigueur. Et vous verrez, je vous montrerai deux ou trois exemples par rapport à d'autres pays européens, nous sommes franchement à la traîne en termes d'apprentissage en France. Voilà, donc voilà le plan, dès que la technique sera au point, que je vous propose... Bon, je vais essayer d'être dans les temps, même je vais tâcher de l'être, et on laissera un petit espace à la fin de la cérémonie, comme d'habitude, à des questions et des réponses. J'ai la chance ce soir de voir dans l'auditoire quelques experts qui pourront peut-être et même sûrement m'accompagner et apporter les détails qu'il faut en cas de questions un peu pointues, dont je risque d'être un peu court. Donc voilà, c'est bon, ça fonctionne. Et donc j'appuie sur le bouton pour défiler. Alors j'ai pris une photo un peu rétro, un peu vintage comme on dit, pour présenter le titre. C'est donc le fronton de la prof, hein, puisqu'on l'appelait comme ça, qui voilà, était à l'origine, il y a des années et des années, d'un certain nombre de classes préparatoires et à l'apprentissage, mêlées, parallélisées avec l'apprentissage, et où j'ai eu, c'est pour ça que ça me tient un peu à cœur, où j'ai eu la chance d'être pion pendant 4 ou 5 ans, pendant mes études, et donc j'ai eu dans mes études des jeunes du CAP, de BEP, de BP, pardon, à qui je... J'aidais parfois à faire leurs devoirs de maths ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, ça, voilà. Donc, la prof était un établissement à l'époque, et même toujours, qui préparait tous ces métiers dits professionnels et qui sont aujourd'hui en France, il faut bien le dire, pas toujours un grand succès auprès des parents d'élèves. Parce que c'est de ça qu'il faudra qu'on parle à un moment donné. Parce que quand on sait... Quelles sont les faiblesses, pourquoi il y a si peu de jeunes intéressés par l'apprentissage, qui considèrent ça comme une voie un peu, on en parlera, une voie un peu parallèle ou de pas de garage, même si les CAP, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par les métiers de la mécanique automobile, c'est un vrai problème. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de ma mission, de rencontrer la secrétaire d'État à la formation professionnelle à l'apprentissage, de l'époque, Madame Walter, qui n'y est plus, et qui nous avait demandé, les ambassadeurs, parce qu'on est quand même une quinzaine en France, un par région. Il y a d'autres ambassadeurs, hein, on est les ambassadeurs aussi départementaux, et qui nous avaient demandé, d'après vous, quel est le point sur lequel il faut le plus s'appuyer pour donner à l'apprentissage cet essor et cette vigueur qu'il mérite. Et quand c'était arrivé à mon tour, moi j'avais dit, alors il y en a qui disaient, ouais, c'est les entreprises, l'autre c'est l'État, l'autre c'est les primes, c'est la région, c'est les branches patronales, c'est les branches professionnelles, enfin il y a un tas d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur ce domaine de l'apprentissage. Moi j'avais levé la main et j'avais dit, enfin quand c'est arrivé mon tour, je dis, moi, il y a un levier sur lequel je trouve qu'on n'insiste absolument pas, c'est les parents d'élèves, c'est les familles, c'est les gens qui sont évidemment, qui ont été tous à l'origine de nos, beaucoup, enfin la plupart, une grande majorité, de nos vocations, il faut bien le dire, et qui aujourd'hui poussent plutôt les gamins à faire des études générales et partir sur des filières classiques, sans penser un seul instant à l'apprentissage. Et quand j'avais dit ça, la secrétaire d'État, elle m'a dit, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, mais c'est le seul truc qui m'intéresse. Il m'a dit, tout ce qui a été dit, on le sait, on le ressait, on l'a entendu mille fois, mais il dit ça, cette action sur les parents d'élèves, ça me paraît fondamental. Alors après, elle a enchaîné en faisant des actions sur les CAF, les caisses d'allocation familiale, enfin sur les associations de parents d'élèves, tout ça. Et bon, aujourd'hui, on remarque, et c'est pas Gérard Baudot, directeur du CIFA de Mercurey, qui est parmi nous, qui me démentira, on remarque un regain aujourd'hui vers l'apprentissage. Mais bon, maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Je vais vous montrer un peu, je vous repasse ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un premier temps, on va faire un petit tour de l'état des lieux, y compris avec un petit focus sur l'Europe. Et même sur le monde, parce que j'ai un graphique qui montre un peu l'apprentissage dans certains pays. Et puis les raisons qui aujourd'hui poussent à transformer l'apprentissage en France. Pourquoi ça stagne? Pourquoi c'est pas populaire? Pourquoi les jeunes désertent cette filiale de formation d'excellence, il faut bien le dire. Et ensuite, on verra dans le troisième temps les 20 mesures que le gouvernement va bientôt prendre. Puisque le projet de loi n'est pas encore voté. Alors, je ne sais pas s'il va prendre un décret, mais si le président va passer, je ne crois pas. Il y a 2-3 points sur lesquels on verra tout à l'heure qui achoppent encore. Et puis, on fera une petite conclusion et puis on passera. Donc, l'état des lieux. Alors, aujourd'hui, on compte 402 900, enfin un peu plus de 400 000 apprentis à la fin de l'année. Et en Europe, en Bourgogne, il y en a 18 000, en BFC, 18 500. C'est ça, Gérard, hein, c'est à peu près le chiffre. Hein. 18 500 apprentis en Bourgogne-Franche-Comté qui sont disséminés, répartis sur 400 métiers différents. Et il y a 53 CFA sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, dont deux parmi les plus importants, ou peut-être même les deux plus importants, c'est le CIFA de Mercurey et le CFA de Lannou, en Côte d'Or. Voilà, ça c'est des CIFA, CFA qui accueillent un peu plus de 1000 élèves dans leurs établissements. Et puis, le nombre d'apprentis en France, en fait, il est relativement peu important par rapport au nombre de salariés. Vous voyez qu'ici, en France, il y en a 17 pour 1000 salariés, alors qu'en Allemagne, il y en a 39, et en Suisse, qui est le nec plus ultra de l'apprentissage dans le monde, puisque même les Américains et les Chinois vont en Suisse pour voir un peu comment ça se passe, il y a 44 apprentis pour 1000 salariés. Bon, les domaines qui sollicitent le plus les apprentis, on les connaît un peu, la construction et le BTP, je vous en parlerai un peu, parce qu'à midi, je déjeunais avec Pascal Guinaud, donc patron de Guinaud TP, là, qui, sur 400 salariés, lui, vous voyez, il a 15 apprentis. C'est un domaine où les apprentis sont relativement attirés, sur lequel ils sont relativement appris. L'industrie agroalimentaire, là, évidemment, même si c'est parfois compliqué de trouver, on en parlera tout à l'heure, en fonction de la pénibilité, des horaires de travail, de, voilà, l'hôtellerie-restauration, là-dedans, il y a tout. L'hôtellerie-restauration, donc les industries agroalimentaires, les activités administratives de soutien aux entreprises, la coiffure, l'entretien. Ça, ce sont les secteurs qui sollicitent le plus d'apprentis. Voilà. Alors, quand on regarde ce graphique, on a une idée un peu de la position de la France, qui n'est pas dernière. Hein. Vous voyez que la France, ils sont... il faut que je m'habitue à me servir de ça. Voilà. Nous, les Français, on est ici, hein, on n'est pas très bien placés. Vous voyez que les Suisses, c'est les champions, hein, avec 44 pour 1000. Vous avez après l'Australie, bon, il y a tous les pays. En Europe, il y a déjà les trois pays les plus importants, c'est l'Allemagne, les trucs, et l'Angleterre. Alors, ce qui est étonnant, c'est les Italiens. Les Italiens, je dis toujours, ils sont bons partout, les Italiens. Ils sont bons en sport, ils sont bons en industrie, ils sont bons en culture, ils sont bons partout. Et même en apprentissage, ils sont loin d'être ridicules. Les Italiens ont un tissu industriel très important. Et en tant que... Je suis dans un club Rotary, on est en train d'essayer de monter une action d'interversion et d'échange d'apprentis. J'espère qu'on va y arriver, mon cher Gérard.
Ça marche avec l'autre
Rotary. Oui, ben, ça va marcher avec le nôtre. On voudrait faire des échanges d'apprentis entre nos clubs affiliés et parallèles d'Italie et d'Allemagne. Donc voilà, les apprentis des trois pays vont venir dans chacun des autres pays pour étudier et voir un peu. Alors c'était plutôt prévu dans l'industrie agroalimentaire. Donc vous voyez, voilà, c'est un graphique qui montre un peu que la France n'est pas très... Mais on est encore meilleur que les États-Unis, ce qui n'est pas un pays vraiment tourné vers l'apprentissage. Avec leur système universitaire, ils sont plus tournés vers des études avec moins de relations avec l'entreprise. Les États-Unis, c'est plutôt du classique. Et puis bon, l'Irlande. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire un petit clin d'œil sur l'Europe. Alors, j'ai trouvé dans mes recherches sur cette conférence un petit graphique qui est peut-être pas très bien lisible, mais qui compare la situation de l'apprentissage en France et en Allemagne, et qui, puisque l'Allemagne, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est quand même un pays où l'apprentissage est fortement installé. En Allemagne, il y a à peu près 78 millions d'habitants, et en France, il y a 66 millions d'habitants. Vous voyez, l'écart est moins... Par contre, chez nous, il y a 400 000 apprentis, et chez eux, il y en a 1 600 000. Donc, il y en a 4 fois plus par rapport à la population. Donc, c'est vraiment un pays qui est... Ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, hein, l'apprentissage en Allemagne ou en Suisse, mais on parle ce soir de l'apprentissage en France. Donc, vous voyez, mon graphique, il n'est peut-être pas très lisible, mais ça montre... Ah, flûte, chaque fois je me trompe. Non, mais c'est dans l'autre sens. Voilà. Alors, est-ce qu'il est en pleine page, là? Je ne sais pas. Je regarde. Ouais, il doit manquer un petit bout, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit ici, entre les deux pays, il y a deux, trois ratios à regarder. Hein. Vous voyez déjà là, donc, le nombre d'apprentis par rapport... Merde, je n'arrive pas, voilà. Oui, ça y est, oui.
Juste en dessous du machin. Bien, bien. Ce bouton là où il y a le petit trait rouge.
Ben oui, mais comme c'est un tout petit étoile, j'ai tendance à appuyer ça. Bon allez, bref, on s'en fiche. Donc vous voyez, le nombre d'apprentis, je vous l'ai dit, le nombre d'apprentis par rapport au nombre de jeunes. Vous voyez que les jeunes en Allemagne, ils n'hésitent pas du tout à aller en apprentissage. Alors qu'en France, bon, il y en a quand même trois fois moins qui se décident à l'apprentissage. C'est là-dessus qu'on passe, qu'on est un peu faible. Voilà. Donc la proportion, la durée des contrats, la rémunération moyenne, bon, ça, on est assez proche. La proportion d'apprentis embauchés, vous voyez, les Allemands, eux, ils embauchent quasiment les deux tiers de leurs apprentis. C'est-à-dire l'entreprise qui les accueille embauche les deux tiers des apprentis. C'est quand même des trucs assez importants. Bon, rupture de contrat, ça, on est plutôt égal ou presque. La durée, c'est 3 ans chez nous, c'est plus court chez eux, hein, vous voyez. Voilà. Et la proportion des jeunes passant par l'apprentissage, donc, elle est 2 fois plus importante chez eux que chez nous. Donc ça, c'était un petit clin d'œil à l'Allemagne. L'Allemagne qui a une grosse culture d'apprentissage. Alors, le financement de l'apprentissage. Alors, ça, c'est des données générales que je vous propose. On rentrera dans un peu plus de détails plus tard. Donc, aujourd'hui, l'apprentissage en France, c'est un budget global de 8 milliards 200 millions d'euros, dont environ 350 millions d'euros en Bourgogne-Franche-Comté. La rémunération des apprentis étant incluse. Parce que là-dedans, il y a tout ce que les régions, tout ce que les entreprises, tout ce que ça coûte aux régions, aux entreprises, à tous les intervenants du circuit. Mais il a été rajouté la rémunération des apprentis, dont on parlera tout à l'heure. Le financement, il est assuré, vous voyez, presque, pas tiers par tiers, mais par les entreprises, les employeurs, sous la forme aujourd'hui de la taxe d'apprentissage. Et vous verrez que ça va changer, il va y avoir une nouvelle taxe qui s'appelle, on verra ça plus tard, 24% par l'État et 22% par la région. Vous pourrez me faire comme remarque, entre l'État et les régions, il n'y a pas beaucoup de différence, hein, puisque à un moment donné, l'État reverse aux régions et les régions collectent auprès des entreprises, etc. Donc tout ça tourne en rond, mais en termes budgétaires, c'est les entreprises, les employeurs qui financent l'État et les régions. Alors, dans l'offre de formation d'apprentissage, il y a 995 centres de formation d'apprentis de CFA, hein, les CFA, en France, et il y en a quand même 53 en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est quand même important, dont des centres en Bourgogne-Franche-Comté que j'ai dit tout à l'heure, le CIFA de Mercuré et le CFA de Lanoue, qui sont des CFA, généraliste, quel est le terme ? Interprofessionnel, c'est-à-dire ce ne sont pas des CFA spécialisés. CFA de l'automobile, CFA, vous voyez, il y a des CFA spécialisés. Les CFA interprofessionnels, c'est-à-dire vous pouvez très bien être en apprentissage ou en formation de photographe, comme de pâtissier boulanger. Alors que CFA d'Autun, c'est spécialisé dans l'automobile, le bâtiment et les travaux publics. Voilà. D'ailleurs, il y a une guéguerre sur la réforme aujourd'hui entre ces types d'établissements, d'une part spécialisés, d'autre part interprofessionnels, que se livrent le MEDEF et les CPME. Alors, les jeunes sont moins attirés par l'apprentissage. Voilà. Alors ça, c'est des données aussi un peu globales. Où il y a de moins en moins d'élèves qui choisissent l'apprentissage à la sortie de la troisième. On voit qu'il y en avait 3,1% en 2012, il n'y en a plus que 2,6%. Et c'est dû à un phénomène bien connu maintenant, c'est que d'abord, il n'y a plus d'élèves en retard. Les gamins, maintenant, ils redoublent plus. À notre époque, parce que bon, je peux dire à notre époque, il y a beaucoup de... on redoublait, on était toujours anxieux, enfin pas tout ça, on était anxieux à savoir si on allait redoubler ou pas. Là, il n'y en a plus. Donc, du fait, arrivent en troisième des élèves qui sont tous autorisés à passer en seconde et qui peut-être auraient pu choisir une autre voie que celle de passer en seconde classique que une autre voie, comme l'apprentissage ou comme les formations professionnelles. Donc ça, c'est un des freins qui fait déserter un peu la filière de l'apprentissage. Voilà, de manière globale, l'apprentissage souffre d'une mauvaise image, mais ça, on le sait, on en reparlera tout à l'heure. La communication est un des fers de lance de trucs. Alors, un petit focus sur le contrat d'apprentissage. Là, peut-être que Fabrice ou d'autres pourront apporter un complément tout à l'heure. Bon, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, tel que défini juridiquement, entre un salarié et un employeur, et qui permet à l'apprenti de suivre une formation en alternance, un petit coup en entreprise et un petit coup au CFA. Ça, c'est le premier point. C'est un contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Bon, il doit être écrit en 3 exemplaires, blablabla, ça c'est... Et il doit comporter des mentions obligatoires et importantes, la date du début de l'apprentissage, le nom du maître d'apprentissage. On peut s'arrêter 2 secondes sur le maître d'apprentissage, c'est très très important. C'est un peu souvent un personnage ou un élément du puzzle fondamental. Aujourd'hui, les maîtres d'apprentissage, alors peut-être pas systématiquement, mais ils doivent être, qualifiés, entre guillemets, ils doivent être validés. Hein, La future loi prévoit d'ailleurs un truc plus officiel, un stage avec une reconnaissance et une formation des maîtres d'apprentissage. Et les maîtres d'apprentissage aujourd'hui, par exemple, d'après toutes les expériences que j'ai vécues lorsque je suis allé visiter des entreprises, ça pose des gros problèmes, des problèmes, on va dire, aux entreprises de production. Mais attendez, nous, on veut bien prendre des apprentis, on est d'accord, mais ça va nous bloquer un contremaître, ça va nous bloquer un chef de production, tout ça, qui doit tenir la main du jeune, etc., etc. Et pendant ce temps-là, voilà, ça, c'est un des principaux reproches, entre guillemets, ou freins, qui fait que dans les grandes entreprises industrielles, ils hésitent à prendre des apprentis. Alors que dans les métiers, les artisans, les boulangers, les hôtelleries, restauration, installation, chauffage, sanitaire, ils hésitent beaucoup moins. Parce qu'en fait, c'est le patron qui est maître d'apprentissage et que la structure ne pallie pas de la présence de jeunes, au contraire, d'apprentis, alors que dans une grande usine industrielle ou dans une... Eh bien, le fait que le contremaître soit un petit peu retenu ou bloqué ou entre guillemets, occupé à faire autre chose que de la production, ça les gêne aux entournures. Alors, c'est pour qui l'apprentissage? Voilà une question aussi à laquelle... Bon, j'ai écrit un peu petit, je m'excuse, hein, parce que c'est... voilà. Donc, l'apprenti, il faut déjà que ça soit... quelqu'un qui sort qui est dans le système pédagogique français, dans le système d'éducation, et qui a l'intention d'obtenir une qualification un peu plus de l'enseignement professionnel, technologie, et même aller jusqu'au truc d'ingénieur. Parce qu'on parle d'apprentissage, mais il faut mettre ce terme avec l'alternance. Parce que, en fait, l'apprentissage et l'alternance, c'est strictement la même chose. Alors, entre contrat d'apprentissage et contrat professionnel, c'est pas tout à fait la même chose, mais entre apprentissage et alternance... Alors, on avait tendance à dire l'alternance, c'est plutôt pour les niveaux supérieurs. Non, en fait, l'alternance, c'est le même principe que l'apprentissage pour les jeunes de 15 à 18 ans. Voilà. Donc, l'apprentissage pour qui ? Donc c'est pour il faut avoir donc entre 16 et 25 ans, en sachant qu'aujourd'hui la Bourgogne-Franche-Comté depuis deux ans est en expérimentation de prendre des apprentis jusqu'à 30 ans. Et ça va être officialisé pour tout le monde dans la nouvelle loi qui va sortir Donc on peut aujourd'hui être apprenti entre 16 et 25 ans. Alors il faut savoir, je reviens au contrat d'apprentissage ou au contrat de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire un CAP, avoir un CAP ou un BP ou un bac pro de coiffeur ou de photographe par exemple, et que brusquement, on a toujours eu comme marotte les voitures et bidouiller dans les moteurs, et on décide de changer de voie, et on dit, tiens, je vais faire un diplôme ou un bac pro, ou un autre bac pro, voire un BTS dans l'automobile, donc je vais essayer de contracter un contrat professionnel. Alors c'est aussi les chômeurs, c'est tous ces gens-là qui peuvent très bien... Mais enfin, c'est un changement de métier, le contrat de professionnalisation qui est abordé par un certain nombre de personnes. Et je crois que c'est à tout âge. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut faire un contrat de professionnalisation au-delà de 30 ans ? Oui. Donc c'est étendu jusqu'à plus loin. Voilà, donc là, on revient au maître d'apprentissage, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est responsable de la formation de l'apprenti, et où on retrouve ces petits problèmes dans les grandes usines où ils hésitent à remettre des gens qui sont à production. Alors, les apprentis qui ne sont pas pris en compte dans le calcul d'effectif de l'entreprise, sauf pour les accidents et les maladies professionnelles. Bon, ils ne font pas partie de l'effectif. À noter, voilà, là c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas vu que je l'avais mis, jusqu'à 30 ans, donc aujourd'hui, en apprenti en Bourgogne-Franche-Comté, qui est zone test. Donc la durée du contrat. Donc la durée du contrat d'apprentissage, c'est une durée limitée ou indéterminée, ça peut être un CDI, 1 à 3 ans. À la fin de la période d'apprentissage, la relation peut se poursuivre dans le cadre d'un contrat de travail, pris directement. Pascal Guinaud, avec qui, je répète, j'étais avec lui à midi, il a donc 15 apprentis, quasiment systématiquement. Il m'a dit, je ne me souviens pas en avoir. Ils sont tous embauchés. Donc il a des apprentis, en fait, qui viennent alimenter son personnel tout au long de, à chaque fois. Donc dès qu'ils finissent, et puis les jeunes, ils sont très intéressés. En fait, le domaine du bâtiment et des travaux publics est un domaine qui attire plus de jeunes qu'on croit. Pourtant, il m'a dit, ils se lèvent à 6 heures du matin, des fois, ils font des journées tard, etc. Et là, la législation, d'ailleurs, est assez contraignante. C'est encore un des freins dont on parlera deux secondes tout à l'heure. La législation, un apprenti ne peut pas monter un escabeau, ça c'est l'histoire classique. Il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça, il ne peut pas travailler au-delà de temps, pas tant d'heures, il ne peut pas travailler plus de 8 heures par ou 7h30 par jour, etc., etc. Donc ça aussi, ça met les boules des fois des chefs d'entreprise qui bossent pendant 12 heures et qui des fois, ou même pendant plus que ça, et qui ont des fois un peu la boule de voir des gamins qui doivent partir alors qu'eux, ils ont envie de rester. Mais c'est strictement surveillé par l'inspection du travail, donc il faut faire attention. Voilà. Donc, dans le cas où le jeune est embauché par l'entreprise, comme chez Guinaud par exemple, eh bien, sa période d'apprentissage est inclue dans la prise en compte pour le calcul d'ancienneté, voire pour la retraite, certainement. Voilà, il est soumis au même temps de travail que les autres salariés. Ne peut, vous voyez, ça c'est 7h30 ou c'est 8 heures par jour avec 35 heures par semaine. Et voilà. Donc ça c'est un peu ce qu'il y a dans un contrat d'apprentissage signé entre un apprenti et... Ça j'ai trouvé ce petit tableau pour montrer un peu ce qui est important, c'est la rémunération de l'apprenti. Donc la première année c'est 35% du SMIC quand ils ont entre 16 et 17 ans, la deuxième année, etc. Donc un apprenti est un salarié de l'entreprise, comme on l'a dit tout à l'heure, même s'il ne rentre pas dans ses effectifs. Et il faut savoir qu'aussi qu'un apprenti gagne le salaire de l'apprenti qui est marqué ici, c'est exonéré des charges sociales, patronales et salariales. Ça veut dire que le gars qui accueille un apprenti, vous voyez, il n'a pas toutes les charges à payer pour lui, c'est-à-dire qu'il lui coûte en fait que son salaire, hein, et que le revenu net est égal au brut, et qu'il est aussi, et c'est bien pour lui et pour ses parents, totalement exonéré de l'impôt sur le revenu. Parce qu'on aurait pu penser que... Voilà. Donc ça c'est les conditions d'un contrat d'apprentissage. La durée, les impositions, les données juridiques et légales, et puis la rémunération. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a dit que, bon, en France, l'apprentissage... ça marche pas très bien par rapport aux autres pays européens, qu'on a du mal à trouver des apprentis. Monsieur, là, tout à l'heure, m'a interpellé, on en reparlera tout à l'heure, qu'on a beaucoup de mal, des fois, à en trouver dans certains domaines, parce que c'est pas dans tous les domaines qu'on n'en trouve pas. On trouve plus, aujourd'hui, d'apprentis bouchers. Hein, Gérard ? C'est difficile. Les bouchers, on en trouve plus des traiteurs que des bouchers. Peut-être des apprentis coiffeurs, on n'en trouve peut-être pas des tonnes, des apprentis photographes. Alors, il y a un tas de métiers qui sont en pénurie et d'autres qui sont évidemment en surcapacité. Et donc, ça, c'est un vrai problème. Et la Suisse, qui est le top niveau en termes d'apprentissage, ils ont pris l'inverse. Ils ont dit, on va d'abord voir ce dont on a besoin, et après, on va aller voir comment on peut trouver et de quelle façon on va pouvoir attirer les jeunes dans une entreprise, en particulier avec des salaires plus intéressants que chez nous. Et ils sont malins, les Suisses. Et en plus, ça a été entièrement pris par les branches professionnelles. C'est ni l'État, ni les régions, les cantons, tout ça. Non, c'est les branches professionnelles qui disent « Moi, j'ai besoin de tant d'employés dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. » Ils font des plans prospectifs. Donc, il nous faut des apprentis dès maintenant dans tel métier, en sachant qu'il y a des métiers nouveaux qui se créent tous les 5 ans aujourd'hui. Il y a les métiers dans l'automobile, je crois que c'est Tom Zach qui me parlait, avec les nouvelles machines informatiques, là, les 2.0, là, dans les voitures. Il m'a dit, c'est plus du tout comme avant, où avant on mettait un tableau de bord, il y avait un truc de vitesse. Mais maintenant, il m'a dit, c'est dingue. Et là, il y a des nouveaux métiers qui se créent dans l'automobile, et qui sont 2.0 ou 3.0 maintenant, 4.0, et qui sont recherchés et où les gamins, ils n'y pensent pas à ce genre de métier. Alors, on va essayer de voir un peu, en résumé, toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on est un peu en difficulté dans l'apprentissage. Tu me dis le temps, parce que je ne regarde pas, moi. Donc aujourd'hui, il y a 1 300 000 jeunes en France, vous rendez compte, qui n'ont ni emploi, ni en formation, et qui ne sont pas en train de faire d'études. Peut-être qu'ils vendent du shit au coin de la rue, mais vous rendez compte, 1 300 000, ce n'est pas 30 000 ou 50 000, 1 300 000. 1 300 000 de gamins, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne sait pas. Je pense que sur ce 1 300 000, il y en a une grande majorité qui pourrait rentrer en apprentissage. Si, alors ça c'est un autre grand point de l'apprentissage, si on communiquait, s'ils avaient accès à la communication. Pourtant, ils ont tous des portables, certainement, tous ces jeunes, et ils doivent tous pouvoir avoir accès à Internet, aller voir qu'il existe un tas de choses. Parce qu'un apprenti est payé, ils auraient à la fois un emploi, ils seraient en formation et ils seraient en train de suivre des études. Et ils auraient les trois. Hein ? Et ça compterait pour la retraite parce qu'il y a des grandes chances qu'ils soient embauchés par l'entreprise qui les a formés absolument. Donc, et ça là encore, bon, la communication, ok, les parents. Mais qu'est-ce que vous faites ? Je ne vous parle pas où. Hein. Qu'est-ce qu'ils font ? Et alors qu'ils ont ça à leur disposition. Voilà les problèmes aujourd'hui de notre société. 7 apprentis sur 10 trouvent un emploi dans les 7 mois qui suivent la formation. C'est quand même exceptionnel. Est-ce que 7 bacheliers en histoire-géographie, ou en... Non, c'est plus en histoire-géographie, en S, en L, ou... sur 10, trouvent un emploi dans les 7 mois qui suivent? Franchement. Non, certainement pas. Ils sont obligés d'aller plus loin, d'aller faire un Master 1, un Master 2, un Master 3, etc. Et quand vous sortez de l'apprentissage, vous pouvez avoir 18 ans. C'est-à-dire qu'à 18 ans, il y en a 7 sur 10 qui trouvent un job. Ça, c'est extraordinaire. Comment les parents ne peuvent pas... Enfin, les parents, les responsables, oui, c'est vrai qu'il peut, il peut ne pas y avoir de parents. Enfin, en tout cas, présents, assez présents dans leur environnement. Mais c'est quand même exceptionnel. Il y en a même qui créent leur propre entreprise. Mais ça, c'est certainement les beaucoup plus doués que... Alors, en France, seulement 7% des jeunes sont en apprentissage. Ah, je sais pas pourquoi mes transparents, ils sont coupés, là. Pourtant, j'ai fait attention quand je les ai. Alors qu'il y en a 15% dans les pays européens où le taux de chômage est beaucoup plus faible chez les jeunes. Voilà, ça, c'est les trois premières raisons qui font qu'aujourd'hui, en France, on s'interroge sur l'opportunité et sur le manque de confiance que peuvent avoir les personnes, les Français, sur l'apprentissage. C'est absolument... Tous les jeunes et les familles n'ont pas le même accès à l'information. Alors là, quand je parle de ça avec les gens de l'apprentissage, avec le conseil régional, parce qu'au conseil régional, ils sont au courant de tout, ils ont la science infuse et bon, l'information, c'est fondamental. Vous voyez, 1 300 000 jeunes qui sont ni en ci, ni en ça, ni en machin, voilà. Même les familles n'ont pas le même accès à l'information sur les débouchés de l'apprentissage. Et pourtant, vas-y que je te fais des portes ouvertes le 3 mars dans tous les CFA. Mon cher Gérard, je n'ai pas pu venir. J'étais pourtant avec Martin, mais je n'ai pas pu venir chez toi. Sinon, moi, parce qu'il y avait sûrement des bons trucs à manger.
Tu n'as pas besoin de le savoir, tu n'as pas besoin d'aller à la porte ouverte.
Non, mais je sais. Je te signale, j'ai un client, moi, du restaurant du Sifa de Mercurey. Je vous invite à aller au restaurant du Sifa de Mercurey tous les midis. Super repas fait par les gamins, servi par les gamins. C'est important. C'est une expérience intéressante à mener. L'accès à l'information. Il va y avoir... Alors, si vous êtes à Dijon la semaine prochaine, non, la semaine d'après, le 28 mars, il y a le salon Entreprissimo. Apprentissimo. Excusez-moi, il y a aussi Entreprissimo. Le salon Apprentissimo qui vous dit tout de A à Z sur l'apprentissage, sur la façon de recruter les apprentis, c'est où les chercher, etc., etc. Donc, vous donnera une information particulière. Le salon Apprentissimo est un grand job dating, pour employer un terme moderne, de l'apprentissage. Alors, à Chalon, il y a eu le 3 mars, une journée porte ouverte. Il y a eu... il y en a une bientôt, ce week-end, il y a quoi ?
Fier d'être apprenti.
Ah, fier d'être apprenti. Il y a l'action fier d'être apprenti, ça c'est très visible dans Internet. Il y a une action très importante. Je suis en train de réfléchir avec 2-3 personnes dont je ne peux pas dévoiler le nom aujourd'hui, à aussi une action sur l'emploi et l'apprentissage. Dès qu'on aura le feu vert si on a un jour le feu vert des hommes politiques, on pourrait envisager de créer quelque chose à Chalon sur ça. Et j'avais demandé à ce qu'on y ajoute l'apprentissage. Bon, aujourd'hui, la communication, elle est franchement pas suffisante. J'avais vu avec Alain Tomzac, qui est patron du CFA de Lannou, hein, qui est un gros CFA, comme je l'ai dit tout à l'heure, interprofessionnel, de mettre un bureau d'information fixe où les gens peuvent aller au centre-ville de Dijon. Ça n'a pas pu se faire. Bah, Chalon, c'est peut-être un peu trop petit pour faire ça. Mais un truc un peu ouvert, public, où les gens vont prendre des brochures, prendre des infos, etc. Bon, Parce qu'ils ne vont pas tous sur Internet. Ils n'ont pas envie. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie ou qui ça ne leur dit rien. Donc un accueil physique, ça peut être intéressant si ça existe. Ensuite, il y a un tas de brochures qui paraissent. Il y a des spots à la télé. Il y a des choses. Mais l'accès à l'information, il n'est pas toujours accessible par les familles en particulier. Les derniers mots sont importants pour leur permettre de faire un choix éclairé, de faire un bon choix pour leurs gamins qui connaissent mieux que les autres normalement. Hein, et dire aux gamins, regarde ce qu'on peut te proposer. Parce que bon, le jeune en maths il n'est pas bon, ou en français il n'est pas bon, ou il est très bon en anglais, en langue. Il dit voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Tu choisis ton métier. Si tu n'as pas envie d'être. Et en plus, ces jeunes, comme me disait Pascal Guinot à midi, il me dit ces gamins, une fois qu'ils sont diplômés, une fois qu'ils ont fini leur apprentissage, sont diplômés, et que. Mais il y en a la moitié qui ont envie de continuer. Il dit, et si je faisais un bac pro, et si j'allais faire un BTS ou un DUT, et si je faisais un master. Chaque année, on remet des trophées avec le Rotary de la formation professionnelle, et Gérard y participe. Et c'est tous des jeunes qui sont comme ça, qui sont sortis un petit peu de l'échec scolaire, entre guillemets, après la troisième, là, mec, bon, général, ras-le-bol, et qui sont rentrés, qui ont fait le bon choix, qui ont fait le choix le plus pertinent. Ils sont rentrés en apprentissage et à partir de là, ils ont pris goût. Ils ont pris goût au métier manuel, ils ont pris goût. Et je vais continuer, et je vais faire un BTS, je vais faire un bac pro, un BTS, etc. Même un diplôme d'ingénieur en alternance. C'est extraordinaire. C'est pour ça que moi, je suis désespéré quand je parle à un tas de gens dans un certain nombre de manifestations, de voir leur réaction face à l'apprentissage. Alors aujourd'hui, alors ça c'est un autre problème, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faut je ne sais combien d'années pour trouver le CAP, le bon CAP dont les entreprises ont besoin. Je parlais tout à l'heure de l'informatique dans les voitures, là, je ne sais plus comment on appelle ce domaine. Mais il y a aujourd'hui, dans les domaines de la santé, de l'aide, de ci, de là, il y a plein de nouveaux métiers qui se forment, mais on met je ne sais combien de temps. Et ça, dans la nouvelle loi, ils ont prévu d'accélérer et de créer des diplômes rapidement avec les branches professionnelles. Les maisons de retraite, ils ont besoin d'un tas de gens. Aujourd'hui, les services à domicile, il y a un tas de métiers. Pour l'instant, il n'y a pas de formation. Enfin, il doit y en avoir un peu, mais il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez de spécialisation. Donc ça, ça va changer. Aujourd'hui, la durée des contrats, elle est rigide. Elle est de 3 ans, ça va changer aussi. On va pouvoir soit les réduire, soit les augmenter. Je ne sais pas comment, mais t'as des, ouais, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc un peu, là, on est dans les... Pourquoi il faut que ça change? Pourquoi il faut que ça change? Pas d'infos, pas de diplôme adapté dans beaucoup de métiers, des durées de contrat trop rigides. Des jeunes à foison qui n'ont ni emploi. Non, mais je sais, mais je remonte, je refais une synthèse. Bon, alors d'accord, avec, hop, 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 ça y est, le Yves, il m'a mis un carton jaune. Allez, hop, on continue. Alors, pourquoi on continue? Les CFA ne peuvent pas librement se développer pour reprendre nos besoins. Là, on a affaire à la spécialiste. Le système d'apprentissage décourage apprentis, CFA et entreprises. Bon, ça c'est une phrase un peu générique, par sa complexité. Et les contrats, et les trucs juridiques, et les contraintes réglementaires, etc., etc. C'est compliqué. Les jeunes hésitent à passer de la filière générale apprentissage parce qu'il n'y a pas beaucoup de passerelles. Et puis, il n'y en a pas beaucoup qui vont en Europe, ça on pourra en reparler aussi, c'est... Il y a 43 000 étudiants filière générale qui vont dans d'autres pays européens passer un an en Erasmus. Hein, vous savez ce que c'est Erasmus, je ne vous explique pas. Alors qu'il n'y a que 6 800 apprentis et l'objet, le projet du gouvernement est de passer à 15 000. Alors voilà les mesures que je ne vais peut-être pas tous les reprendre en détail les mesures qui vont, semble-t-il, transformer l'apprentissage en France au mois d'avril.
Allez, vas-y.
Alors, les trois premières, donc tous les jeunes, ils vont voir leur salaire augmenter de 30 euros par mois. Ah ben on rigole un peu, quoique ce n'est pas très marrant, mais c'est quand même un pas en avant, et puis multiplié par 400 000, ça fait quand même un peu de monnaie. Alors, ça, c'est vraiment une vraie nouvelle mesure, c'est qu'on va leur filer 500 euros à tous les jeunes en apprentissage pour passer leur permis de conduire. Ça ne mange pas de pain, c'est concret, je ne dis pas que ça va les décider à aller en apprentissage. Mais c'est encore un truc supplémentaire qui arrive. Tous les apprentis dont le contrat est interrompu ne perdront pas leur année, plus leur année. Et ils pourront continuer à passer dans la classe supérieure. Alors, tous ceux qui passent du général et qui veulent faire un apprentissage, mais qui risquent de tomber dans un monde totalement nouveau, eh bien, il va y avoir des prépas apprentissage. Ah, ça, c'est une trouvaille. Hein. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais une prépa apprentissage, c'est-à-dire que c'est un peu comme les prépas au concours d'infirmière. Vous voyez, il y a des prépas au concours d'infirmière. Des prépas à tas de concours, d'ailleurs. Des grandes écoles, évidemment, mais bon. Donc, il va y avoir des prépas. Bon, ça pourra permettre à des gamins d'hésiter moins, d'avoir moins peur de changer de domaine. Je vais aller voir un peu ce que c'est, après je... Alors, l'information sur la qualité de la... Bon, ça, c'est... il faut que ça se fasse rapidement. Et en particulier, plusieurs journées annuelles d'information des métiers en classe de 4, 3, 2 et première 2, formation générale. Ça veut dire qu'on va aller parler d'apprentissage dans les lycées et les collèges. Ça, c'est nouveau, parce que vous savez que ce sont des zones un petit peu préservées. On ne rentre pas dans les collèges, dans les lycées comme ça. Et bien là, on va y aller. Parce que si c'est pour dire à un gamin de quatrième, ce serait bien que tu fasses ça, et tu iras au CFA de Mercure ou au CFA de machin. Bon, l'éducation nationale, les collèges, jusqu'à présent, ils n'aimaient pas trop. Qu'on aille parler d'apprentissage chez eux, même si on arrivait des fois en poussant un peu la porte à y aller. Et ça fait partie du réseau de communication qui est aujourd'hui très manquant dans le système. Donc jusqu'à 30 ans, au lieu de ça, c'est fait. Tous les contrats en alternance sera financé. Tout contrat en alternance sera financé, c'est-à-dire que ça ne coûtera rien du tout à personne. On demande à voir, parce que dès qu'il est question d'argent, le gouvernement, ça lui donne des boutons, parce que s'il faut trouver des sous pour ça, c'est qu'il faut aller en retirer ailleurs. Les campus des métiers, alors c'est ce qu'on vient de parler, apprentissimo, les portes ouvertes, et puis des manifestations spécifiques à l'apprentissage seront favorisées et développées, c'est pour ça que nous on a l'espoir de faire le nôtre, et puis 15 000 au lieu de 6 800 comme on a vu tout à l'heure, pourront aller voir un peu comment on travaille dans la mécanique, dans l'hôtellerie-restauration, tout ça, en Allemagne, en Angleterre, et je pense que ça attire beaucoup les jeunes, ça leur permet peut-être d'acquérir une langue en plus, en passant, puisque Erasmus c'est pendant un an, c'est pas pendant 15 jours, c'est un an, c'est une année scolaire, donc ça leur donne le temps de maîtriser une langue, et ça c'est aussi un plus très important. Alors ça, tout ça, ces mesures, mon cher Yves, c'était pour les jeunes. Maintenant, quelles sont les mesures qui vont favoriser l'attractivité des jeunes vers l'entreprise, des entreprises? Alors, tous les freins levés pour permettre aux entreprises de s'engager dans l'apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, autant les artisans, les PME, les TPE, ils n'hésitent pas beaucoup à prendre des apprentis, autant les grands groupes. Moi, j'ai bossé 40 ans dans un grand groupe, on n'en prenait pas beaucoup, les apprentis. Maintenant, on en prend beaucoup plus. Voilà. Donc, les partenaires sociaux co-écriront les diplômes professionnels avec l'État. C'est-à-dire que les partenaires sociaux des entreprises, enfin des, qui représentent les entreprises, vont enfin pouvoir adapter la demande des entreprises aux formations nécessaires. Ça, c'est important. Les aides à l'embauche seront unifiées et ciblées sur les TPE et les niveaux bac et pré-bac. Bon, ça, c'est des aides financières qui vont être simplifiées parce que je ne vous ai pas montré le chemin des financements, mais c'était tellement compliqué, je lui ai dit, je vais les faire fuir. Alors, il y avait un passage obligatoire, il y a aujourd'hui un passage obligatoire devant les prud'hommes quand il y a un contrat d'apprentissage rompu. Ah. Et bien ça, hop, ça partira, c'est terminé, encore que c'est, peut-être me feriez-vous la remarque, ça c'est avantage l'entreprise. Est-ce que ça avantage l'apprenti? Ça, je ne sais pas, parce que ça c'est une procédure un peu administrativo-juridique qui les barbait sérieusement. Alors, la règlement des conditions de travail, à monter sur un escabeau, ça va être revu et corrigé. Mais je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels seront les détails, mais ils vont être importants en termes d'horaire de travail, de pénibilité, de sécurité, etc., etc. De conditions de déplacement. On demande aussi aux apprentis de se déplacer. La procédure d'enregistrement, bon, ça c'est juridique, hein, voilà. Alors, ça c'est aussi important, intéressant, c'est la modulation du contrat d'apprentissage en fonction du niveau que déjà le gamin... Parce qu'on peut très bien avoir des jeunes qui travaillent et puis qui se remettent aux études. Et donc ils ont déjà un niveau, alors s'ils se remettent dans le même... Par exemple, ils sont mécaniciens en voiture, mais ils n'ont aucun diplôme. Hop, ils passent... Ils décident de se diplômer, de faire un BP ou un bac pro, et ils ont déjà 5 ans ou 4 ans de... Eh ben, ça va permettre de les diriger, de les moduler en fonction de leur niveau de qualification. Donc l'embauche pourra se faire tout au long de l'année, et non plus au mois de septembre, au début de l'année scolaire. Bon, ça peut poser des problèmes au CFA, enfin aux établissements scolaires. Plus qu'à l'entreprise. Hein. Mais je vous le dis, ça c'est pour attirer les entreprises, pour leur demander de prendre des apprentis le plus possible. Donc c'est des mesures qui sont plus en leur faveur qu'en leur faveur, par exemple, des CFA, enfin des lycées professionnels. Parce que commencer en cours d'année... Alors, la certification des maîtres d'apprentissage, on en parlait tout à l'heure, les maîtres d'apprentissage, qui sont vraiment le pivot du système, parce que les gamins ils se souviendront que de lui ou que d'elle dans leur après qu'ils aient obtenu leur diplôme et qu'ils soient rentrés dans la vie professionnelle, eh ben à partir de la prochaine loi, il faudra qu'ils soient certifiés. Donc soit par formation, soit par VAE, la valorisation des acquis de l'expérience, ou là en l'occurrence la reconnaissance des acquis de l'expérience. C'est-à-dire que c'est un type, il est contremaître ou il est, je ne sais pas, horloger depuis 25 ans. On ne va pas lui demander, en étant maître d'apprentissage dans l'horlogerie, d'aller repasser à une certification pour montrer qu'il a bien les qualifications nécessaires. Donc ça, par contre, il va y avoir une certification des maîtres d'apprentissage. Aujourd'hui... il faudra, je ne dis pas montrer un papier, mais peut-être, parce que moi je ne connais pas la législation de contrôle de tous ces processus. Je pense que, je ne sais pas, Fabrice, il y a des inspecteurs qui vont regarder si le maître d'apprentissage, il va regarder s'il va être certifié, il va peut-être regarder, un jour ou l'autre. Donc c'est des systèmes un peu lourds, mais qui permettent à, par exemple, aux parents... Ah, bah oui, le maître d'apprentissage de mon fils ou de ma fille, il est certifié, donc j'ai confiance, etc., etc. Enfin, j'ai mis une photo là, mais j'ai, les deux dernières mesures. Les CFA, alors ça s'adresse, les deux dernières sont au CFA, pourront développer sans limite les formations correspondantes aux besoins et compétences des entreprises. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais les CFA, certainement, en concertation avec les métiers, avec les, je sais pas, les organismes syndicaux qui gèrent les métiers, la Chambre des métiers ou l'UIM, pas l'UIM, parce qu'ils ont leur truc à eux. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais en tout cas, souvent, les directeurs de CFA me disent « Ah, ben tiens, moi, j'aimerais bien monter un CAP ou un BP ou un bac pro de tel truc, mais pour l'instant, je ne peux pas, pour telle raison, ou parce qu'il n'y a pas de besoin. » Voilà, donc ça, c'est très important. Et en plus, ça sera... merde. Flûte.
Conclusion.
Ouais. Non, et en plus, ça sera renforcé par un système de certification. Je ne sais pas comment tu vois que ça va marcher, ça, mais ça paraît compliqué. On verra. Qui vivra, verra.
Déjà, c'est pas certifié ISO, on en fait partie.
Oui. Voilà. Oui, non, mais ce qui est important, c'est quand même... développer sans limite, c'est peut-être un mot exagéré, les formations correspondantes aux besoins et aux compétences des entreprises. C'est ça qui est important dans cette mesure. Ça veut dire qu'enfin, et puis ça permet de créer les nouveaux métiers. Parce que c'est la croix et la bannière. T'en as créé combien, toi, des nouveaux métiers aussi fin de Mercurey ? Je te remercie de ton honnêteté, mon cher Gérard. Aucun ! Alors qu'il y en a peut-être quelques-uns à créer maintenant, tout de suite, et qu'il y en aura encore plus à créer demain en 2.0, 3.0. Ou d'autres métiers qui se créent. Je vous dis, dans les services, il y a plein de métiers qui se créent. Voilà. Donc, mon cher Yves...
Merci.
Attends, je vais mettre ma conclusion.
Attends,
la conclusion.
Non, mais parce qu'il faut avoir un échange.
Ma conclusion est la suivante. C'est une Antoine Leroux de Lincy, personne ne le connaît, mais c'est lui qui a dit ça. Alors moi, je la traduis, parce que ça, c'est un langage 19e siècle. Je la traduis autrement. Il n'y a pas de métier mauvais. Il n'y a que des gens mal informés. Voilà comment je la traduis, au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et maintenant... en m'appuyant sur deux ou trois experts de la salle, je suis prêt à répondre à des questions. Peut-être donner le micro, oui, mon cher Yves. Ah oui, quand même, une heure.
Ça marche, oui.
Ça passe vite.
Non, mais si vous voulez, là, il faut qu'on ait un échange. Donc,
Il faut, Yves.
Pour échanger avec la salle, le public. Donc, si la première question...
En fait, moi, j'ai pas de question, mais je voudrais témoigner en tant qu'ancienne salariée d'une entreprise d'un groupe américain, 500 salariés, nous avions en permanence 100 apprentis. Pas forcément à l'atelier, hein, parce qu'on avait que 100 et 150 personnes qui étaient à l'atelier.
Dans tous les secteurs.
Dans tous les secteurs, et chaque année, on nous demandait est-ce que vous prenez des apprentis ? Et on incitait beaucoup à prendre des apprentis.
Bon retour à chaque fois.
Du master. J'ai eu un jeune qui est parti d'un BP, il faisait agent de sécurité, et on l'a conduit jusqu'à être aujourd'hui ingénieur. Donc les grandes entreprises embauchent aussi.
Non, mais les grandes entreprises, oui, incitent. Il y en a certaines qui incitent, mais pas toutes.
Ça change récemment. Hein. Les 10 dernières années, on est tous des retraités depuis un certain temps, mais on a gardé quand même quelques contacts avec... moi aussi, j'ai travaillé, comme vous le savez, dans des grands groupes.
Et oui.
Le groupe en question, au moment où je suis parti, le mot apprentissage n'existait même pas. Et donc aujourd'hui, les retours que j'ai, c'est l'apprentissage est rentré, c'est dans la politique de l'entreprise. Donc ça évolue.
La politique de l'emploi, oui, aujourd'hui, de la gestion des RH, etc. Ça commence à rentrer, mais c'est dur à rentrer. Hein. C'est dur à rentrer par les difficultés.
Il y a d'autres...
Engendrées par les dossiers à monter, les...
Est-ce que les professionnels des CFA veulent dire quelque chose ? Là, voilà, quand même.
Gérard.
Ils sont venus, on les remercie d'être venus.
Ouais, là, tout à l'heure, tu as parlé de l'Allemagne et de
la Suisse.
Bon, ils ont un taux d'apprentis nettement plus élevé. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en France, dans la formation initiale, on a deux systèmes.
On a le système des lycées professionnels, et on a le système donc de la voie scolaire, et on a le système de l'apprentissage.
Les fonctions publiques et le privé.
Oui, mais d'accord, l'éducation nationale
et privée.
En Suisse et en Allemagne, il n'y a pratiquement pas de lycée professionnel. Les jeunes ne se posent pas la question, c'est forcément l'apprentissage. C'est aussi pour ça que ça marche, l'apprentissage.
Et c'est les branches professionnelles qui gèrent.
Tout à fait. Mais bon, moi je ne suis pas certain.
Donc c'est privé.
La réforme, là, il y a des choses, des mesures intéressantes et des mesures de gadgets. Il y a plein de choses qu'on fait déjà, hein, quelque part, dans ce que ça. Je pense que ça donnait. Moi, je ne pense pas qu'il y aura un gain fondamental d'apprentis. Ça fait des années que les gouvernements nous disent, allez, 800 000 apprentis. Alors, c'était Sarkozy qui démagogue, 800 000 apprentis.
Ouais, 800 000, après c'est 500 000.
Hollande,
c'était 500
000. On arrivera peut-être à ça avec la réforme. Alors, effectivement, l'idée que les branches professionnelles reprennent un petit peu la main, c'est peut-être bien pour donner moins de lourdeur au diplôme. Mais nous, par exemple, dans les interpro, on se pose quand même la question de la gouvernance, parce que pourtant, un CFA d'industrie va travailler avec l'UMM, donc là, c'est franchement identifié, ils travaillent comme ça. Nous, avec qui on va travailler, avec les coiffeurs n'ont pas de sous, donc c'est pas eux qui vont nous financer. Hein. Donc, jusqu'à présent, on est très dépendant du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, qui assure un petit peu le fonctionnement de CFA, 60% quand même de notre fonctionnement, et tout ça, c'est pas dit dans les projets.
Enfin,
je suis désolé, je parle un peu des
cette fois. Oui,
il faut se poser certaines questions.
On ne peut pas sortir.
Merci de cette contribution, parce que c'est la face cachée de la problématique dont on ne parle jamais.
Alors, il faut savoir que dans la réforme d'aujourd'hui, le gouvernement a l'intention, puisque Gérard vient de le souligner, en fait, les subventions, elles sont partagées entre les interprofessionnels et ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on les appelle, plus l'apprentissage un peu privé par branche ou pas. Et il y avait un partage entre les deux, et qui veulent diminuer les interprofessionnels et augmenter l'autre. Alors donc c'est quand même contradictoire avec le succès. Oui, un monsieur qui voudrait partir, mais il ne peut pas. Alors... j'ai pas dit, mais une entreprise qui prend un apprenti, quand c'est une petite entreprise, il a 1000 euros par mois de subvention pour accueillir un apprenti. Donc vous voyez, c'est déjà une belle somme. Il a 500 euros, je crois, pour les dépenses communes de l'apprenti. Et l'apprenti, il est payé par ailleurs par l'État, donc ça lui coûte rien. Alors ça, c'est pour les petites entre 10 et 11 salariés. Après, au-dessus, cette subvention n'existe plus, mais par contre l'apprenti est toujours payé par l'État, donc ça va rester.
Je veux bien faire un témoignage un témoignage à deux niveaux en tant qu'ancien étudiant. En fait, j'ai toujours voulu faire une filière d'ingénieur. Moi, j'ai fait les choses à l'envers, c'est-à-dire que je passais par l'UT, j'ai fait Erasmus, et ensuite l'école d'ingénieur par alternance. D'ailleurs, j'avais intégré à l'époque la première école d'ingénieur en alternance en France, l'IT2I, qui est basée à Auxerre. Et c'est vrai que c'est quelque chose de formidable. Pourquoi j'avais choisi? Parce que, déjà, c'est pas anodin, on commence à cotiser pour la retraite.
Ah oui, oui.
Déjà. Et puis, on commence à avoir un peu d'indépendance hein, en tant qu'étudiant. Donc, on rentre dans la vie active et avec ce système d'apprentissage d'alternance qui permet vraiment de concrétiser ce que l'on apprend en cours magistraux ou à l'université. Et l'autre réflexion, c'est en tant que parent, par rapport à la nébuleuse qui est l'orientation. Je pense que là, tu parles à juste titre de la formation au niveau des familles, mais je ne pense pas que ça touche seulement l'apprentissage.
Oui.
J'ai un fils qui a intégré une MFR, donc c'est une maison familiale de loin sur le service à la personne. On savait qu'il voulait faire ça. Ça, on l'a su assez vite. Mais alors, pour trouver après l'organisme, vous savez où aller pour avoir la documentation, mais après, c'est très nébuleux, et en effet, je pense que les gens s'y perdent vite.
Mais oui.
Donc ça, je pense que c'est une grosse problématique, Et en effet, il faut savoir que près de la moitié des jeunes de 18 à 30 ans ne savent pas quel métier ils veulent faire. C'est ça aussi le souci. Mmh. C'est qu'au-delà de l'information qui est donnée en collège ou en même lycée, vous pouvez le confronter à la moitié de jeunes qui, même si vous leur présentez le métier, attends, je ne sais pas ce que je veux faire.
Je ne sais pas ce que c'est.
On a une grande génération de Tanguy, hein, je ne sais pas si vous connaissez le film, de plus en plus, qui reste de plus en plus longtemps chez leurs parents. Voilà, donc il y a cette problématique-là, et je pense qu'il faut au maximum emmener les jeunes dans les entreprises, tout type d'entreprise, pour leur faire
découvrir tout ça. Des stages.
Oui, tout à fait.
Merci ton témoignage, Patrice.
Je voudrais revenir un petit peu sur tous ces problèmes psychologiques. Hein. Donc les parents, moi aussi, témoignage mais que j'ai entendu à la prof, justement, avec le chef des travaux, qui disait, alors on s'émerveillait sur les équipements, sur tout ce qu'il faisait et tout et tout. Non, on a beaucoup de mal à trouver des élèves. Alors pourquoi ? Parce que les parents dissuadent leurs enfants d'aller dans l'enseignement professionnel. Mais pourquoi ? Mais moi j'en ai chié toute ma vie à l'usine, je veux pas que ça recommence. Ouais. Donc c'est ça exactement ce qui est dit. Et pourquoi ? Parce que les gens ont une image de l'industrie qui est celle qu'ils ont vécue 40 ans avant. Et l'industrie a complètement changé. Donc il y a un poids très fort, disons, d'image négative qui est véhiculé par les parents, non pas, disons, en disant l'usine, enfin bon, je caricature, l'usine c'est toujours ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, ce qui est faux aujourd'hui dans la plupart des cas. Prenons les usines de mécanique, maintenant c'est des labos, hein, on va dire, alors, ben, un petit peu ça, parce qu'il y a l'huile de coupe, mais enfin bon, voilà. Alors ça c'est un premier point. Deuxième point, c'est le problème, on dit toujours, il faut que les gens viennent à l'information pour... Le problème, c'est l'information descendante, on a parlé de l'entreprise, des enseignants. C'est-à-dire les stages, il faut les faire aussi aux enseignants, je ne parle pas du CIFA, je parle des enseignants de l'éducation nationale. Ils envoient les gamins en stage dans les entreprises, eux, ils ne savent pas ce que c'est que les entreprises, les métiers sont cachés. Je vais citer qu'un cas dans les métiers de la mécanique que je connais bien puisque c'est là que j'ai travaillé. Dans la mécanique, il y avait deux endroits pour rentrer, c'était les ouvriers, de façon très générique, et le bureau d'études pour les bureaux. Et puis après, on dispatchait les gens en suivant les besoins et les envies et les possibilités. Par exemple, le métier qu'on appelle agent des méthodes. Vous dites dans la rue, agent des méthodes. Qu'est-ce que c'est qu'agent des méthodes ? Agent de planning, qu'est-ce que c'est qu'agent de planning ? Y a beaucoup de métiers invisibles, ce qu'on appelle à Pôle emploi, des métiers invisibles. C'est-à-dire que dans si on regarde l'écran, bon, on a les choses hyper classiques que tout le monde connaît. « Ah, mais moi, ça, je ne veux pas faire ça. » Et on leur dit, par exemple, voilà, agent de méthode. Qu'est-ce que c'est que ça, agent de méthode ? L'enseignant de lycée et de collège ne sait pas ce que c'est qu'un agent de méthode dans les entreprises. Et pourtant, il y en a des bataillons entiers dans beaucoup de secteurs d'industrie. Je cite cet exemple-là. Il y a beaucoup de métiers inconnus. Hein, voilà. Donc, il y a un problème d'information descendante de l'éducation nationale.
Mon cher Yves, tu es un grand naïf. Tu es un grand naïf, mais si. Tu crois que l'éducation nationale, fonction publique, va dire aux élèves d'aller dans le privé ? Mais tu rêves ! Mais ça n'a jamais été... Ou d'aller voir dans le privé ce qui se passe. Ça n'a jamais été... Il y aurait eu une guerre...
Idéologique.
Idéologique.
Oui, oui. Non, mais
je te rappelle quels sont les syndicats qui sont les plus nombreux dans le...
Oui, non, mais je suis bien d'accord, mais...
Dans l'éducation nationale.
Je ne parle pas des individus ou les syndicats, je parle du système d'essayer de réinciter. Mais pourquoi ça marche ?
C'est ça le problème.
Pourquoi ça marche en Allemagne ? En Allemagne, je vais expliquer. En Allemagne, il y a un problème technique dans une boîte en face du lycée. Quel est le réflexe immédiat ? Moi, je l'ai vécu, j'ai travaillé aussi en Allemagne. Quel est le réflexe immédiat ? On va appeler le professeur, qui est en général un prof de lycée, pour résoudre mon problème. Vous imaginez, dans une entreprise, on appelle
Mais tu ne vas pas comparer l'Allemagne anglo-saxonne avec la France. Avec la France latine. Tu ne peux pas.
Mais c'est là la racine du mal.
Ou saxonne tout seul, oui, si tu veux.
Oui, mais elle est là, la racine du mal. Elle est là.
Eh oui, là, c'est, après, c'est les mentalités, là, là c'est tout.
On peut faire tout un tas de...
Eh ouais. Il faut s'adapter à notre profil.
Non.
Et à la...
Alors là, c'est un combat culturel qui...
Eh ben oui.
Décennie.
Eh ben oui.
C'est sûr. Un cas typique, les fameux syndicats publics disent... l'apprentissage, c'est une orientation trop précoce. Et donc, une fois qu'ils sont mis dans le tuyau jeune, par exemple 14 ans, on choisit de prendre une filière d'apprentissage.
Alors, évidemment. Ah, ben... Oui, mais c'est le capital et puis c'est le peuple. Qu'est-ce que tu veux ? L'éducation nationale et l'entreprise.
Certes,
ben oui.
C'est un
raccourci.
De communication pour essayer de faire bouger un petit peu les choses.
Ben oui. Mais si seulement on pouvait le faire.
En Allemagne, tout du moins, il y a quelques années, quand je travaillais encore, il y avait quand même beaucoup de centres d'apprentissage dans les entreprises, proprement dit.
Ah oui, c'est.
En Italie, en Suisse, je ne sais pas.
En Suisse, c'est tout comme ça. C'est les branches professionnelles qui font l'apprentissage.
Est-ce que ça n'a pas joué un grand rôle ?
Bah bien sûr, que ça, mais c'est la mentalité.
Parce que...
Des pays.
On parlait tout à l'heure des parents qui ont un réflexe plutôt négatif là-dessus. Mais je pense qu'en Allemagne, je n'ai pas vérifié, mais très souvent, je dirais, les parents qui sont dans l'entreprise devaient, connaissant bien...
Ils en sortaient eux-mêmes. Oui.
Pour encourager leurs enfants à faire l'apprentissage.
Ah ben, il y avait une filière de filiation, si je puis dire, évidemment. Les parents des jeunes Allemands, ils sont passés par la même filière. Donc c'est vrai qu'il y a une culture de l'apprentissage en Allemagne qu'on aura, je ne sais pas, j'espère un jour, mais ça sera difficile.
Non, mais là,
et c'est pour ça qu'on prend des mesures d'attraction.
Mais en plus, il faut faire descendre... Là, on parle que de l'attraction, visibilité du système vis-à-vis des clients, c'est-à-dire des jeunes qui veulent faire l'apprentissage. On parle jamais de la façon de faire descendre l'information, c'est d'aller au client.
Hein. Bien sûr que tu as raison. Mais c'est,
non, mais
c'est
je, ce parle, que... je parle vraiment des enseignants et des enseignants. Ce que tu es
parlé, ouais.
C'est ce qui s'est passé en 75, quand il a fallu commencer à faire les boulots, et les premiers, il y avait des centres d'apprentissage dans toutes les boîtes. Et la première chose qu'on a fermée, on a fermé ça parce que, ben, et c'est même les patrons qui l'ont fait.
Non, parce que.
Parce qu'ils étaient contre le système, parce qu'il fallait serrer les boulons, ben, c'est mais... ça qu'on a sacrifié en premier. Et donc là, les gens d'éducation nationale ont dit ben, c'est vachement bien parce que, enfin, on va.
Récupérer des élèves.
Retirer l'enseignement du privé, enfin de l'entreprise.
Hein. Ben, oui, mais t'as un peu résumé le truc, c'est un truc politique.
Oui, mais
ben oui.
Au-delà du politique, c'est culturel.
Oui, c'est politico-culturel, oui.
Ma fille aînée est professeure dans l'enseignement général, hein, et elle lutte contre ça parce que quand le gamin dit qu'il veut faire de l'apprentissage et tout, aussi bien les parents que tous ses collègues s'y opposent farouchement.
Ben, c'est ce que je dis depuis le début.
Pâtissier, mais c'est pas possible. Et souvent, de bons élèves. Voilà. C'est pas possible. Il faut pas faire pâtissier. Alors que le gamin n'a qu'une envie parce qu'il a fait un stage de pâtissier, ça lui plaît, etc.
Voilà. Il est gourmand.
Et donc, ma fille, tu vois, elle lutte.
Ben oui, mais elle lutte contre le mammouth.
Ah oui.
Ah oui.
C'est pas le mammouth, c'est
disparu. Ouais,
il finira au moins par disparaître un jour.
Bon, il y a d'autres.
D'autres questions là, on est prêt, on est chaud là, on commence à être chaud.
Alors, je te donne le micro.
Oh bah c'est.
Mais au niveau des freins à l'apprentissage, il y en a un que vous n'avez pas cité.
Ah.
Et qui me paraît être le plus important.
Ah oui, alors ça c'est embêtant.
Eh bien, ce sont les écoles, les écoles, les
C'est quoi l'éducation nationale? C'est l'éducation nationale le plus grand frein à l'apprentissage.
Mais c'est ce qu'on vient de dire depuis 10 minutes, là.
Vous l'avez pas écrit, hein?
Ah, je sais, j'ai pas écrit l'éducation nationale.
À mon sens, mais... c'est le plus important.
Mais bien sûr.
On sait très bien que quand les gamins sont en troisième à choisir, les professeurs leur disent n'allez pas dans l'apprentissage. Alors, comment on le sait, tout simplement?
Non, non, mais.
Témoignage des apprentis.
Quand je dis que.
Mais
ils ont contourné le problème. Donc, plus de redoublement.
C'est le plus gros frein.
Mais oui! C'est le non-redoublement.
Le reste...
Ils sont tous admis en seconde. Ils vont tous au lycée après.
Alors, la deuxième chose, quand on est en situation de baisse démographique, comme c'est le cas depuis 20 ans, en tout cas en Bourgogne, on a les enseignants sont encore plus acharnés à garder les gamins. Bon, avec la connivence du conseil régional qui, lui, en période de baisse démographique, a quand même les lycées dont il a la charge au moins de l'entretien à garder, à remplir, on arrive à la situation de la Bourgogne qui a perdu presque 20% d'apprentis en une dizaine ou une quinzaine d'années. Et c'est ça les plus gros freins.
Ben bien sûr, mais ça, moi je l'ai dit depuis le début. Depuis le début, je vous dis que l'arrêt du redoublement permet à tous les jeunes d'aller au lycée sans problème. Alors les parents d'élèves, pourquoi voulez-vous qu'ils se posent des questions? Et mon fils, il va au lycée, il rentre en seconde, il n'y a plus de redoublement. Ça a été une mesure de l'éducation nationale, je ne sais pas qui l'a prise à un certain moment, qui a mis un sacré coup derrière les oreilles de l'apprentissage. Parce que les gamins en troisième, le gars il redouble, il dit attends... Bon, le gars, il est bon à rien, il n'est pas bon en maths, il n'est pas bon... Il faudrait lui trouver autre chose. Et là l'apprentissage tient un rôle fondamental. Mais avec cette suppression du redoublement, ils ont trouvé la parade, parce que c'est une parade politique, une parade, comme je l'ai dit tout à l'heure, du peuple face au capital, de tout ce que vous voulez, de la droite face à la gauche, enfin, peu importe. Ils ont trouvé la parade, et vous avez raison. C'est ça qui tue la progression de l'apprentissage. C'est cette orientation des jeunes qui sont peut-être un peu moins, qui ont moins de moyens que d'autres, vers des métiers en plus qui leur iraient comme un gant. Je suis sûr qu'il y a plein de gamins, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les familles, ils ont plein de métiers devant eux, si on les informe comme il faut, dont plein pourraient convenir à leurs enfants qui sont un peu moins... doué que l'aîné ou la cadette qui est un peu meilleure et qui va aller au lycée. Mais oui, mais vous avez raison. Mais je l'ai dit 100 fois. Peut-être que vous n'avez pas percuté.
En même temps, je pense qu'il ne faut pas dire que l'apprentissage... parce qu'en fait, ce que j'entends là, c'est que... ce que j'entends, c'est que l'apprentissage serait réservé aux enfants qui sont, entre guillemets, en échec scolaire.
Non, non, non.
C'est-à-dire qu'ils ne marchent pas bien, à l'école, hop, on les colle en apprentissage.
Non, non.
Et c'est ça qui fait la mauvaise image.
Ah bah bien sûr, mais bien sûr que non.
Il faut pas les
quand les enfants sont bons,
vous avez raison.
On les décourage d'aller en apprentissage.
Mais même les bons, moi j'ai un neveu.
Il faut valoriser l'apprentissage en disant, mais quelqu'un qui est bon à l'école, il a envie d'être pâtissier, boulanger, je sais pas quoi, il faut qu'il le fasse, mais surtout pas dire, ah bah le gamin il est pas bon, allez hop, on va passer en apprentissage.
Mais non.
Ça c'est pas bon du tout.
Mais non, mais le problème c'est que les jeunes qui sont pas très, moins bons que les autres, on les oriente pas vers l'apprentissage. On les oriente ailleurs, on sait même pas où. Et il y en a 1 300 000 qui traînent dans les rues. C'est ça qui est important. Moi, j'ai un neveu qui était super doué à l'école. Et quand il a dit « je veux être menuisier », putain, les profs, ils ont dit... Il était très, très bon. Il était premier, il était en troisième, tout ça. Et maintenant, il a passé un BTS, un diplôme d'ingénieur. Il travaille chez les billards, là, chez René Pierre. Et il a été détourné parce que sa passion, c'est la menuiserie. Excusez-moi.
J'allais dire la même chose que ce que vous avez dit. Je vais être un petit peu nuancée, parce que moi, j'ai été enseignante très longtemps en CFA, donc avec Gérard. Donc, j'ai eu effectivement... Bon, c'est vrai que beaucoup d'apprentis nous ont dit que s'ils avaient écouté leur prof de troisième, ils ne seraient pas venus à l'apprentissage, parce qu'effectivement, il y a des gens dans l'éducation nationale qui dissuadent les jeunes d'aller en apprentissage. Mais je suis beaucoup bagarré en tant que prof, mon collègue est ici, comme vous dites, madame, pour qu'il y ait aussi un jeune qui est bon à l'école, puisse, surtout
maintenant, assouvir sa passion. Voilà,
avec
les
bacs pro, etc.
Bien sûr.
Et souvent, je me suis beaucoup bagarrée avec les jeunes qui véhiculaient cette espèce de « on est apprenti, oui, mais bon, on n'est pas comme les autres ». Pendant très longtemps, arrêtez de dire pour être boulanger, il faut être grand, il faut répéter, parce que c'était des trucs qui se disaient. Moi, ça fait quand même plus de 30 ans que j'enseignais en CFA. Donc, il faut aussi essayer de convaincre les jeunes qui
ont
envie de faire des études bac plus 5, mais qui ont quand même une intelligence, une autre forme d'intelligence, aussi une intelligence pratique, mais qu'ils aient accès aussi à l'apprentissage. Donc, il faut arrêter aussi de dire c'est réservé à ceux qui sont en situation d'échec ou qui... Parce que c'est comme ça qu'on a dévalorisé l'apprentissage.
Ah oui, oui.
Vraiment. Et nous, on le ressentait quand on avait des jeunes à qui il fallait redonner de la fierté, de l'insertion
dans un
métier et d'être fier de ce qu'il faisait.
Bien sûr, fier d'être apprenti.
Et ça, je crois que c'est... Vous disiez, M. Fournier, c'est une question aussi de mentalité, c'est culturel.
C'est culturel. Les parents jouent un rôle fondamental là-dedans.
N'importe quelle décision juridique, financière, etc. On avait participé une année à une réunion conseil régional au niveau de l'hôtellerie, justement, quand c'était encore M. Soisson, je me souviens.
Ah oui.
Où on se posait des questions. Bon, bah, pourquoi il y a, par exemple, dans la cuisine, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie d'être apprentis en cuisine.
Oui, en hôtellerie, en restauration.
Bon, certes, certains vont en lycée professionnel, mais d'autres, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'un métier, certains l'apprendront plus facilement par le biais de l'alternance, parce que c'est une semaine dans l'entreprise, enfin trois semaines dans l'entreprise, une semaine au CFA, et ça, pour certains jeunes, ça les a aussi réconciliés avec l'enseignement.
Oui.
Parce que moi, j'étais prof d'histoire géo. Donc, je leur vends quelque chose. Je sais qu'ils ne vous intéressent pas. On n'aime pas l'histoire géo, ça ne sert à rien, c'est de la culture finale, etc. Et ben, il fallait les réconcilier et on a vu que certains, après trois semaines dans l'entreprise, étaient contents
de revenir sur des fondamentaux.
Sans tomber dans l'angélisme, je veux dire,
oui.
Retrouver de l'intérêt, et puis voilà. Donc, je crois qu'il faut revaloriser.
Monsieur Guinaud me disait à midi, il est important, si ce n'est pas fondamental, que tous nos apprentis aient une culture générale.
Ah,
il m'a dit, s'ils viennent ici, s'ils savent à peine lire et écrire, c'est important, la culture générale. Non. Mais...
Je crois qu'il y a un concept qui me fait beaucoup de mal, mais c'est valable aussi pour les lycées professionnels, c'est le concept de métier manuel. On est toujours
en train de dire,
toi tu seras manuel, puis l'autre qui sera intellectuel. Moi je regarde les pâtissiers là, qui sont en cinquième année, chez nous, là, je dirais quelque part le top niveau, ils font de superbes réalisations, je peux vous assurer que ça demande déjà une démarche intellectuelle.
De la créativité.
Qui est très très importante.
Ah oui,
absolument bannir
ce travail manuel, c'est... Oui, c'est...
Ouais. Ça fait beaucoup de mal, mais ça, c'est pas valable pour l'apprentissage.
Alors, je parlais des profs, on envoie nos politiques qui font des discours en stage, en entreprise.
Ouais, mais vous savez, un prof de collège, bon, ça a des limites, on peut pas lui demander d'avoir une représentativité de tous les métiers. Hein. Le tout, c'est qu'il passe pas de blocage quand même sur le monde professionnel.
Une découverte. Et on va conclure là-dessus parce qu'on ne veut pas y passer.
Oui, j'ai une autre réunion.
Je vais vous raconter une histoire de que j'ai dit dans une conférence, là. Mais enfin, disons, ça paraît impensable aujourd'hui, qui s'est passé aux États-Unis. C'est un certain personnage qui s'appelle l'amiral Rickover.
Rickover.
Rickover, c'est lui qui est à la source du nucléaire civil. C'est un sous-marin. Bon, je ne vais pas vous faire la conférence. Mais à un certain moment, donc, il a impliqué des gens de l'industrie privée pour faire les études, le matériel, la construction. Eh bien, il faut dire qu'il avait une personnalité quand même qui était exceptionnelle. Il a pris entre quatre yeux le PDG de Westinghouse. Il lui a dit, vous avez
3 mois en stage à Oak Ridge et vous faites des cours de physique nucléaire. Et le PDG de Westinghouse y est allé. Donc, non seulement il a financé, il a fait faire tout ça, mais les dirigeants, et ça se fait en Allemagne, voilà aussi un aspect culturel, en Allemagne, le PDG d'une grande boîte, de Mercedes ou de tout ce qu'on a, il est rentré ingénieur lambda, même s'il était le fils de l'actionnaire principal. Nous, on n'a pas ce système-là, on a l'aristocratie des grandes écoles, et disons, quand on a la tête bien faite, on arrive au sommet tout de suite, hein, parce qu'on est tellement intelligent qu'on sait assimiler tout. Mais non, ça ne fait pas ça. Donc, tant que les gens qui nous gouvernent, mais pas seulement dans les politiques, mais les grandes entreprises, ne font pas ce parcours, eh bien, les gens qui font des discours ne savent pas de quoi ils parlent. Hein. On le sait bien. Hein. Donc, il y a tout un travail de fond. Hein. Moi, je vais dire à M. Macron, s'il fait une cause avec tout le monde, la prochaine fois que je le vois, je vais lui dire, il faut que tu fasses un stage en entreprise. Et il me dira oui, au sens intellectuel du terme. Voilà, oui, oui. Non, mais enfin, oui, mais si vous voulez, vous voyez bien que même tous les gens qui ont eu des positions de ministre, c'est pas la première fois depuis 30 ans, qui venaient de l'industrie privée, de l'industrie au sens industrie, pas de la banque, hein, et ont eu un mal de chien à s'adapter à l'infrastructure administrative française. Parce qu'il y avait un parachute qui était fantastique. Et des gens qui étaient brillants dans le monde de l'entreprise ont été nuls dans le milieu français parce que ça ne passait pas. Quoi, alors que ça ne passait pas. Hein. Bon, allez, on va pas refaire le monde, mais ça nous soulage. Donc, merci de votre participation. Je pense que ce qu'on fait là, je disais, bon, c'est l'autre qui m'avait proposé de faire un peu de cours. Bien sûr, j'ai dit oui. Et surtout, pour les gens qui sont du TV, il y en a quand même quelques-uns ici qui sont. Eh bien, ça fait partie de la culture, c'est une question de société.
Il faut les manger aussi fort.
C'est pas seulement de faire.
Vous voulez casser la couche. Et aller.
Mais c'est
de savoir. Y aller de temps en temps bouffer.
Voilà.
Je suis allé il y a quelques années.
C'est vachement bien. C'est vachement bien. C'est pas cher. Bon, ça va.
Oui, très bien.
Bon, allez.
Bravo, merci.
Tiens, je vais récupérer tout ça là.